Labologie, votre revue de presse dans les domaines de la biologie et de l'écologie, une émission préparée, réalisée et présentée par Aurélien Ossé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver en ce début d'année pour votre nouveau numéro de Labologie. Nous sommes bel et bien au mois de janvier, et oui déjà, janvier qui a bien commencé, et donc pour ce début d'année et pour tout au long de cette année, permettez-moi de vous adresser tous mes meilleurs voeux de bonheur, de joie, de partage, de paix, de sérénité, mais surtout, de santé, parce que la santé, c'est la vie. Voilà, nous serons ensemble chaque mois, même station, même heure, jusqu'au mois de juin, pour passer en revue l'actualité dans les domaines de l'environnement, mais aussi de l'agronomie, par exemple. Alors, sachez qu'aujourd'hui, nous parlerons de sujets de saison. Pour commencer, nous parlerons des châtaignes et des marrons, nous parlerons de la neige, et puis nous parlerons un peu plus des plantes. Avec cette question, les plantes peuvent-elles développer des tumeurs? Et puis, nous parlerons en fin d'émission d'oiseaux qu'on voit régulièrement, qu'on voit quasiment tous les jours. Enfin, ça dépend où on habite, bien évidemment, en cette période. Nous parlerons des mésanges en fin d'émission. Mais sans plus tarder, comme je parle beaucoup, commençons d'ores et déjà ce nouveau numéro de Labologie. On est en janvier, on est en 2025. C'est votre station préférée et je vais vous parler des châtaignes et des marrons. En effet, lors des fêtes que nous venons de passer, vous avez peut-être mangé, dégusté des marrons glacés, ou vous avez peut-être offert des marrons glacés. Mais, autant le préciser, il y a une erreur de langage en la matière. Donc, quelle est la différence entre une châtaigne et un marron ? Eh bien, il faut savoir que la châtaigne est le fruit du châtaignier, tandis que le marron est une graine du marronnier. Marronnier, cet arbre que l'on retrouve de temps en temps ici ou là, au détour d'une rue, d'un parc ou d'un jardin. Alors, ils se ressemblent, c'est vrai, mais on peut les distinguer. Le marron est plus dodu et plus luisant, il est enveloppé d'une capsule à pointe molle, tandis que la châtaigne se trouve dans une bogue hérissée de piquants menaçants. On peut prendre donc des échardes si on n'y prête pas attention. Alors pourtant, sa chair est comestible, là je parle de la chair de la châtaigne, tandis que le marron est toxique, il faut faire très attention, interdiction formelle d'y goûter. Alors aussi, les vendeurs ambulants que vous connaissez, et puis donc, ces friandises qu'on offre lors des fêtes, on dit souvent « chaud, ils sont chauds mais marrons ». Petit à petit, on a appelé les grosses châtaignes, les plus grosses châtaignes, des marrons. En fait, pour résumer, quoi qu'il en soit, nous mangeons des châtaignes, des grosses châtaignes que nous appelons marrons. Bon, une petite virgule musicale qui ne m'a pas permis de déguster un marron glacé, justement, qu'on m'a offert pendant les fêtes. Chers amis, sachez que j'aime beaucoup la châtaigne et tout ce qui tourne autour de la châtaigne. Hein. Farine de châtaigne, soupe de châtaigne, marron glacé, voilà. Chers amis, bon, allez, on s'égare un petit peu. Nous allons rester dans la thématique de cet hiver. Pourquoi la neige est-elle blanche? C'est une question qu'on peut se poser. Eh bien, la neige est blanche tout simplement parce qu'elle renvoie presque toute la lumière qu'elle reçoit. Alors, constituée de 90% d'air et 10% de flocons de neige, très beau à observer, et vous avez de très belles photos sur Internet, la neige fraîche est en réalité aussi transparente qu'un flocon isolé. Alors, mais quand les flocons sont nombreux et forment une couche épaisse, l'être humain la distingue clairement grâce aux rayons lumineux qui rebondissent sur elle. Et contrairement aux autres matières, la neige n'absorbe quasiment aucun de ces rayons. La neige fraîche ou propre réfléchit 95% du rayonnement solaire. Et cette lumière résulte en réalité du mélange de couleurs allant du violet au rouge, et donc ce mélange est blanc. Alors autrement dit, la neige est pratiquement de la même couleur que la lumière blanche du soleil du fait de son fort pouvoir miroir. Mais cet effet s'estompe avec le temps. Et oui, la neige acquiert des impuretés. Les impuretés absorbant la lumière s'accumulent petit à petit, ce qui augmente la part de lumière solaire absorbée par la neige, diminuant ainsi son pouvoir réfléchissant. D'ailleurs, une idée me traverse l'esprit, c'est pour ça que lorsqu'on fait du ski, on ne peut pas s'empêcher de porter des lunettes de soleil. Alors ainsi, la neige resplendit d'un blanc moins éblouissant lorsqu'elle est chargée d'impuretés et peut même devenir grisée. Labologie, chers amis, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Labologie, Aurélien pour vous accompagner. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien c'est le premier numéro de cette année 2025 et eh bien je vous présente et représente à nouveau tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. On se le souhaite jamais assez et je vous souhaite surtout la santé parce que la santé, c'est la vie. Alors en début d'émission, je vous parlais des marronniers et des châtaigniers, je vais à présent vous parler un peu plus des arbres. Alors on peut se poser la question, jusqu'où un arbre peut-il grandir ? Eh bien en fait, Il faut savoir qu'un peu plus d'une centaine de mètres. Alors c'est difficile en fait d'être précis. La nature de la limite au-delà de laquelle un arbre n'arriverait plus à croître, il faut le savoir, fait débat dans la communauté scientifique et notamment dans des laboratoires qui travaillent sur les arbres comme par exemple à INRAE. Alors cette limite pourrait être régie par l'influence de la gravité sur la montée de la sève, le phénomène de flambage sous son propre poids. Il faut y penser, oui, l'augmentation aussi de la prise au vent. Alors des études américaines, il faut le savoir, se sont tout de même essayées à l'exercice. Une étude qui date de 20 ans a estimé qu'un séquoia à feuilles diffes ne pouvait dépasser les 122 à 130 mètres. Une modélisation portant sur le sapin de Douglas, un autre conifère géant, a conclu en 2008 à une hauteur de 138 mètres et les feuillus seraient quant à eux limités à environ 100 mètres de hauteur d'après des calculs publiés en 2013. Enfin, c'est déjà quand même beaucoup, plusieurs dizaines de mètres. Alors, les géants seraient voués à disparaître. Et oui, ces travaux concordent avec les relevés sur le terrain. Hyperion, c'est un séquoia à feuilles diffes de Californie, détient le record de l'arbre en vie le plus grand sur notre planète. Sa cime culminée à 116 mètres au sol en 2019. Date de sa mesure la plus récente, équivalente à la hauteur du deuxième étage de la tour Eiffel. Et sa croissance n'est pas terminée. Et oui, au 18e et au 19e siècle, des conifères de plus de 120 mètres, ainsi que des eucalyptus, pour être précis, Eucalyptus regniens, atteignait 140 mètres de haut, c'est ce qui a été décrit dans certains ouvrages. Impossible toutefois de vérifier ces mesures, probablement surestimées pour certaines, tous ces spécimens ont été coupés ou sont tombés depuis. Bref, chers amis, quelle que soit leur taille exacte, de tels géants sont en tout cas voués à disparaître. Averti pour Science et Vie, Hervé Cochard, écophysiologiste et directeur adjoint du PIAF, qui est une unité de recherche à INRAE. Le changement climatique va réduire la longévité des arbres et favoriser les espèces de petite taille. Chers amis, nous restons dans le domaine de la botanique et de la physiologie végétale avec cette question que je me posais avant de lire la réponse et de vous la soumettre. Les plantes peuvent-elles développer des tumeurs? Eh bien la réponse est oui, oui, absolument. Et oui, tout comme chez les animaux, il arrive que leurs cellules se mettent à proliférer anormalement à cause d'un endommagement de l'ADN entraînant la formation de tumeurs. Alors, en résulte alors des gonflements, vous avez peut-être observé, c'est vrai, sur des arbres, qui peuvent se développer en quelques semaines et mesurer plusieurs dizaines de centimètres de diamètre. Ces « cancers », entre guillemets, « cancers végétaux », sont provoqués par certaines bactéries qui infectent les plantes et modifient ainsi leur génome. On peut penser par exemple à la Rhodococcus qui par exemple provoque chez les conifères l'apparition d'une multitude de pousses au même endroit appelée balai de sorcière. Vous connaissez peut-être cette expression et cette formation végétale. Cependant, il faut préciser que contrairement aux tumeurs animales, celles qui affectent les végétaux sont rarement fatales. Les cellules mutantes peuvent en effet difficilement générer des métastases, vu que les cellules végétales possèdent des parois rigides, voire très rigides, par rapport aux cellules animales. Alors plus encore, les plantes n'ont pas d'organes essentiels à leur survie et se développent de façon plus flexible. Ainsi, si une tumeur se forme sur une branche, la plante s'adaptera tout simplement et en fera pousser une autre. C'est aussi simple. I got the big D.
late long on the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long on the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long on the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, on the chaise long, all day long on the chaise long.
L'abologie, c'était chaise longue. Et oui, c'est pas trop de saison, hein. C'est pas, voire même c'est pas du tout de saison, quoi. Quoique, peut-être, quoique. Bon, chers amis, j'espère que vous passez une bonne émission. Nous sommes encore ensemble pour aller 5-10 minutes. Et dans cette dernière ligne droite du numéro de ce mois de janvier 2025. Et oui, déjà. Faut pas se tromper, 2025. Eh bien, je vais vous parler des fonds marins. On change complètement de domaine avec les fonds marins. C'est une information révélée par Science et Vie, c'était en octobre dernier, les fonds marins qui produisent de l'oxygène. Alors, est-ce que seules les plantes produisent de l'oxygène? Eh bien, que nenni! Les fonds marins aussi, comme le révèle Science et Vie. Voilà près d'une décennie que l'équipe de l'écologue anglais Andrew Sweetman s'intéresse à la faune des abysses. Et oui, il se rend ainsi périodiquement dans le Pacifique Nord pour mesurer la quantité d'oxygène que cette faune, pas forcément bien connue, respire à 4000 mètres sous la surface. 4000 mètres sous la surface, 4 km sous la surface, vous imaginez ? Alors comme la lumière ne pénètre pas du tout si profondément, eh bien ce gaz ne peut être produit par la photosynthèse, mais selon toute probabilité, diffusé depuis la surface. Alors pourtant, quand l'équipe descend une cloche et suit la concentration en oxygène, celle-ci augmente. Au bout de plusieurs années de mesures, le chercheur a dit à ses étudiants de jeter des capteurs, mais quand une autre méthode a été donnée, les mêmes résultats, quand une autre pardon, méthode a donné les mêmes résultats, il a été forcé d'y croire, comme il le révèle pour Science et Vie. Alors, en reproduisant les conditions abyssales en laboratoire, le chercheur Andrew Sweetman et ses techniciens ont identifié les présumés coupables, des nodules métalliques dont le courant électrique dissocierait l'eau en hydrogène et en oxygène.
Vous êtes à l'écoute de Labologie, avec Aurélien Housset.
Non, chers amis, il n'y a pas une mésange qui est rentrée dans le studio. Nous venons d'écouter la mésange charbonnière. Et oui, c'est rare d'entendre les oiseaux sur la bande FM. Eh bien, Labologie est un peu une émission divergente en ce sens-là. Eh bien, comme promis, je vais vous parler des mésanges. C'est une révélation de Science et Vie dans son édition de novembre dernier. Comme quoi, eh bien oui, les mésanges intelligentes vivent plus longtemps. Donc cette question, l'intelligence procure-t-elle un avantage évolutif? Eh bien oui, répond une étude nord-américaine. Des éthologues l'ont observé chez des mésanges de gambelles. Ce sont de petits oiseaux très courants outre-Atlantique. Ici en France, nous avons bien la mésange bleue et la mésange charbonnière que nous venons d'écouter qui sont très courants. Donc là-bas, eh bien, les mésanges de gambelles passent l'hiver grâce aux graines qu'elles stockent dans différentes cachettes. À raison d'environ 80 000 graines par individu. Alors leur survie repose donc sur une intelligence spatiale et une très bonne mémoire. Alors des chercheurs ont évalué les capacités cognitives de 227 individus et pour ce faire ils ont installé en pleine Sierra Nevada au nord-ouest donc des États-Unis un réseau de 8 mangeoires munis d'une ouverture pouvant délivrer une graine en hauteur dans les arbres. La livraison n'a lieu que quand le système lit la puce portée par l'oiseau et que celui-ci s'est posé devant la mangeoire, qui lui a été attribuée. Alors chacun des oiseaux disposait de 4 jours maximum pour identifier et mémoriser sa cache, et certains se trompaient moins que d'autres. Alors, puis les chercheurs ont suivi les oiseaux régulièrement jusqu'à la fin de leur vie. Résultat, eh bien, les chercheurs ont constaté que non seulement les plus performants survivent mieux à leur premier hiver, mais qu'ils ont aussi une progéniture plus nombreuse et qu'ils vivent globalement plus longtemps. En moyenne, il faut savoir que les individus dotés des meilleures capacités cognitives spatiales vivaient un peu plus de 3 ans de plus à peu près 3 ans contre seulement une année pour les moins dégourdis. Chers amis, c'est ainsi sur cette information concernant les mésanges et leurs capacités cognitives que se referme ce premier numéro de l'année 2025. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Nous nous quittons pour mieux nous retrouver le mois prochain, même station, même heure, pour de nouvelles actualités dans le domaine de l'environnement. D'ici là, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Salut, salut!
C'était Labologie, une émission préparée et animée par Aurélien Hausset.